Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM mercredi 22 novembre et on est ensemble encore une fois comme il se doit. 20h-21h, c'est le créneau horaire de votre quotidien sportif qui est Time Sport chaque soir sur la plus bête des radios qui est Beurre FM. Au programme de cette émission ce mercredi soir, on va parler de quoi? Non pas des sorties cinéma, mais on va parler du match d'hier soir. On s'attendait quand même à un gros carton de l'équipe de France, on l'a pas vu. Les Bleus, bon, ça lève le pied, mais tranquillement, c'est qualifié pour cet Euro 2024 en Allemagne. Fofana, peut-être c'est le Bleu, l'international français à suivre sur justement la suite avec l'arrivée prochaine de l'Euro 2024. Et aussi, on aura Aurélien Duarte et son fameux coaching. On va parler de quoi? Ça, c'est la petite surprise de ce soir. Le débat du jour, on le rappelle, selon vous, Deschamps a-t-il déjà son 11 type? Voilà, c'est la question que l'on se pose et que l'on vous pose. En fin d'émission, Aurélien sera avec vous, chers auditrices et auditeurs. Alors soyez bien à l'écoute, cramponnez-vous, restez bien à la maison. Ouais, il fait un petit peu froid dans les rues de Paris et de sa région, mais en tout cas à travers la France on nous écoute, notamment du côté de Rouen, le 98.7. Un petit clin d'œil à Moindre qu'on pourra retrouver chaque dimanche sur l'antenne de Beurre FM. Fou de sport, 18h-20h. On nous écoute aussi du côté de 3 sur la bande FM, le 94, voilà, sur la bande FM. Justement, allez, on va commencer cette émission en présentant la fine équipe qui m'accompagne ce soir. Et sans plus tarder, on rappelle quand même le numéro du standard, le 01 53 48 3000. C'est parti.
Time Sport. Il est pour parler.
Bendy est de la partie ce soir, comment ça va?
Mais ça va très bien, bonjour Bilal, bonjour à tous, très heureux d'être là pour ce back-to-back comme on dit en NBA bien évidemment. On a fait hier, on fait aujourd'hui et on va débriefer le match dont on avait parlé hier, très heureux.
On est en compagnie de Yasmine, notre consultante, bonsoir Yasmine.
Bonsoir Bilal, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Beurre FM et de Time Sport. Donc ça va fraîchement, il fait froid Bilal depuis quelques temps. Paris. Mais contente de retrouver mon Vivien, ça faisait longtemps. Donc,
ah Vivien, il est là, c'est vrai. Vivien, Yasmine, il est là. Bonsoir Vivien.
Bonsoir Bilal, pareil, content de retrouver ma Yasmine du coup. Et, et puis voilà, on parlait de sortie, mais il y a Barbès Football Nation à voir pour ceux qui ont France 3 demain soir.
C'est intéressant.
C'est un documentaire sur la CAN du 18. Et puis en même temps, plus que la CAN, qui va un petit peu montrer l'histoire du quartier, enfin du nord de Paris, de la diversité, des cultures, parce que Beurre FM, c'est la radio de la diversité. Et pour les auditeurs qui connaissent moins Paris, en gros, le nord de Paris, c'est vraiment l'endroit où il y a, c'est vraiment l'Afrique à Paris, c'est le 18e pour moi. Donc vraiment, pour les auditeurs qui veulent connaître, voilà, n'hésitez pas à passer.
C'est Football Club Barbès?
Barbès Football Nation.
Ah, Football Nation,
Ce sera, et ce sera en ligne après, à partir de vendredi matin.
C'est ça.
Et c'est en prime demain soir, du coup, c'est ça?
Sur France 3, Paris Île-de-France. Et pour ceux qui ne peuvent pas, du coup, il faudra attendre
le replay.
C'est ça, le replay ou regarder en ligne à partir de vendredi matin.
Ça, c'est super, justement. Ça va faire tant plaisir à notre réalisateur qui n'est autre que Solal. Bonsoir, Solal. Comment ça va? Va bien, Solal?
Buonasera a tutti. J'espère que vous allez bien, les amis. Ben oui, comment je peux pas aller quand je suis sur Time Sport avec une magnifique équipe et un présentateur hors pair, franchement. Oh,
on est cool là.
Écoute, j'ai vu les sujets, ça annonce du lourd. N'hésitez pas à appeler le 01 53 48 3000, les amis. Je me ferai un plaisir de répondre et voilà.
Ah ben justement.
Passez une bonne soirée avec nous.
Avant d'enchaîner sur l'équipe de France, on a vu pas mal d'images depuis hier soir, tombées dans la nuit plutôt. Avec ce match, ce match assez chaud quand même, pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde, et c'est vrai que ça te fait déjà réagir. On a vu le Brésil s'incliner face à l'Arabie Céleste, l'Argentine. Ouais. On a vu aussi que ça, c'est parti un peu en freestyle et en vrille avant le match.
En dehors du match.
Et après le match aussi. Non, mais c'est vrai, parce qu'on se dit, on voit que ça en France, mais là, c'est parti bien au-dessus, quoi.
Avec
qui veut réagir?
Je vais dire un petit mot avant de laisser mes compères parler également sur le sujet. C'est vrai qu'on a vu, on a vu un match qui dès le début, que ce soit en dehors du stade, avec les bus, etc. et tout, la tension est très, très vite montée. Pendant le match également, on a senti de fortes tensions. Tout au long des 90 minutes. Et puis surtout après, moi je sais qu'il y a une image qui m'a choqué et que j'ai vraiment envie de remettre en avant ce soir. C'est l'image de Dibou Martinez qui va calmer les policiers dans le stade lorsqu'ils étaient en train de contrôler les supporters. Et c'est une image, enfin, de mémoire de supporters de football, j'ai jamais vu un joueur dans un stade commencer à prendre les policiers à partie pour leur dire: On se calme les gars. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu des images pareilles dans un stade de football. Moi, de mon côté, j'ai jamais vu ça.
Ouais. Ouais, complètement. Alors, le match.
Colère
le match
noire de Léo Messi. Hein.
Tout à fait. Le match a débuté avant même que le match commence. J'ai envie de dire que les Argentins, finalement, n'ont pas du tout changé depuis cette fin de Coupe du Monde.
Ouais, là, ça s'est toujours été. Passé, hein.
Ils ont toujours été.
Provocation
un petit peu,
aussi, peut-être.
Un petit peu, voilà, hautain, assez provocateur. On pensait qu'ils avaient un petit peu retenu la leçon des célébrations qu'ils ont eues suite à cette Coupe du Monde remportée, mais finalement, non. Tu parlais de cette image justement de Martinez à la fin du match. Moi, je retiens aussi la petite altercation, on va dire, entre Rodrigo et Messi. Et voilà, c'est pas quelque chose qui est plaisant à voir quand on voit un match de foot, notamment de ces deux nations qui sont deux nations très importantes dans le football. Voilà, c'est assez dommage et je pense que ça a complètement terni aussi l'enjeu de ce match. L'Argentine finalement a gagné et est restée première au classement FIFA. Donc voilà, c'est assez dérangeant en tout cas.
Oui, Vivien, peut-être un mot concernant les Argentins, les Brésiliens aussi.
Oui, ben c'est...
On critique nous, Français, mais là, c'est vrai que c'est...
Ouais, ah c'est incroyable. En tout cas, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Moi, je trouve que c'est une catastrophe parce que autant je suis vraiment pour la passion du football. J'aime bien qu'il y ait ce qu'on appelle beaucoup d'engouement dans les stades, mais quand ça tourne comme ça, moi, je sais pas, moi, ça me pose problème. Ça démarre avec une demi-heure de retard aussi,
c'est
le match.
Quoi,
et puis, c'est vrai que, oui, les Argentins, bon, c'est un peu leur style. C'est comme ça qu'ils ont été champions du monde peut-être en pourrissant un petit peu les matchs, beaucoup de devises, de provocations, etc. Donc, je suis assez perplexe. Et après, je remarque aussi que côté brésilien, ben, ça fait quand même, ils y arrivent plus depuis un moment. Il faut rappeler, ils perdent la Copa chez eux contre l'Argentine.
C'est vrai.
Et moi, quand je vois ça, moi, je suis assez perplexe pour le Brésil. Je me dis, peut-être vivement Ancelotti, parce que là,
c'est pas encore sûr, Ancelotti. Ouais. Hein.
Ah, c'est sûr, mais là, parce que là, moi, quand je vois le Brésil comme ça, je me dis que pour 2026, et même déjà la Copa qui arrive, j'ai l'impression qu'ils vont encore avoir des découvertes.
La finale sera du côté de Miami, hein.
Ça fait vraiment le truc marketing pour favoriser encore un joueur, mais on dira pas lequel. Ça, c'est vraiment les mêmes joueurs qui a les burgers à Miami, qui a les.
Mais non, on rappelle quand même qu'il y aura aussi un match à Miami entre l'Inter Miami et l'équipe de Cristiano Ronaldo.
Non, c'est pas en Arabie Saoudite.
Non, ça sera à Miami.
Ah oui, à Miami. Il a tout gagné alors, Léo Messi.
Ah ben là oui, là
c'est. Il le fait déplacer là-bas. Ouais, c'est vrai.
Ah ben, Louis Vuitton lui a fait des pubs spéciales. Il y a même une pub Louis Vuitton. Il a grandi ses jambes.
Toi aussi, tu en as fait une. Hein.
Oh, c'est.
Ouais. Sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Oh, on n'en dit pas plus. Hein.
C'est vrai.
Non. Bien sûr. Il y a des gars, ils font des selfies. Ils posent ils font la pose sur la pelouse. Hein, avec Sabrina à l'époque. Mais c'était sympa avec l'équipe de Tam Sport. Justement, Vivien, ça le fait sourire. Tout comme Benji, c'est l'équipe de France. Pas de grand chelem pour les Bleus. C'est vrai, comme le disait si bien nos confrères du Monde, accroché tout même par les Grecs. C'est ça, Benji.
Ouais.
Allez, on se voyait. Il avait raison. Et je crois qu'il nous écoute ce soir. C'est Soufiane. Non, mais c'est Soufiane. Il a dit match nul.
Il a dit
match nul.
Il avait dit 0-0.
Il nous écoute.
Il avait dit 0-0.
Ouais, c'est vrai. Mais il a fait match nul. C'est vrai.
Mais c'est vrai qu'il avait dit match nul. Mais après, quand tu prends la physionomie du match, c'est un match que, quand tu reprends les éléments, qu'on gagne à 99% du temps. C'est un match qui, pour une fois, dans ce genre de match, où la pièce tombe du mauvais côté pour Didier Deschamps, on a eu l'habitude de voir des matchs où l'équipe de France n'était pas aboutie dans sa performance. Où elle avait moins d'occasions que ça et finalement la pièce tombait du bon côté pour Deschamps cette fois-ci, pas du bon côté. Alors par contre le ballon lui était bien passé de l'autre côté de la ligne, mais la technologie n'était pas présente.
C'est fou quand même.
Il y a beaucoup
le
de
coup
montants.
C'est le coup de gueule de Griezmann aussi. Hein.
Oui, voilà. Il a totalement raison parce que c'est vrai que c'est un match anecdotique. Pour l'équipe de France qui était sûre d'être tête de série, d'être qualifiée. C'est juste pour l'honneur de dire qu'on va faire un grand chelem. Après pour le coup, moi j'avoue que le résultat sur ce match me pose pas énormément de soucis et c'est pas là où je vais attirer toute mon attention, dans le sens où je voulais voir une performance d'une équipe de France sans Kylian Mbappé, avec des joueurs où ça allait être en rotation. Et dans l'animation globale, j'ai vu des bonnes choses, j'ai vu des moins bonnes choses aussi individuelles ou collectives, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Mais dans l'idée, moi je voulais plus voir comment ils s'en sortaient dans le match et voir comment ils s'installaient tactiquement et techniquement plutôt que le score final, parce que
pour le coup c'est anecdotique dans le sens où pour moi il y a que 15-20 minutes où l'équipe de France est un peu en dessous, sinon tout le reste du match ils sont dominateurs et c'est un match que tu le joues 20 fois, on le gagne 19 fois.
Est-ce qu'on peut Alors, leur en vouloir honnêtement non, pas du tout. Certes ils font un match nul, 2 buts partout, il y a eu des buts tout de même, mais quand on regarde le bilan de l'équipe de France sur cette année 2023, sur justement cette campagne de qualification.
Alors
29 buts marqués, 3 buts encaissés, un match nul, 8 matchs, 7 victoires. Donc honnêtement, c'est un bilan plus que positif pour l'équipe de France. Mais moi, ce que je retiendrai de cette année 2023, c'est depuis la fin de cette Coupe du Monde justement au Qatar, c'est le fait d'avoir adressé le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. On a vu un vrai changement au sein de l'équipe de France. On a vu une communication qui était aussi complètement différente, avec un état d'esprit, un objectif aussi qui était différent. Moi, je me rappelle lorsque Hugo Lloris était capitaine de l'équipe de France, c'était lui qui venait tout le temps se présenter en conférence de presse avant les matchs.
C'est ça.
Exactement. C'est pas que Kylian Mbappé, on a d'autres joueurs aussi qui viennent. Donc il essaye de mettre en lumière d'autres joueurs de cette équipe. Ensuite, on a
bravo Mbappé alors.
Bah oui, aussi, mais il y a aussi le moi ce que je me rappelle aussi, c'était ce moment où il disait qu'il voulait justement un peu dégommer Platini et passer au-dessus des buts marqués en équipe de France. Donc voilà, donc il y a tout ça. Et puis cet état d'esprit aussi, c'est-à-dire de tout gagner, de marquer le maximum de buts et aussi d'en encaisser le moins possible. Donc il y a ce bilan de l'équipe de France sur 2023, pour moi il est intrinsèquement lié aussi à ce brassard de capitaine pour Kylian Mbappé.
Sonal, on l'écoute.
Je te remercie Yasmine pour ces stats, 8 matchs, 3 buts encaissés et 28 buts mis, c'est ça? Après il y a un peu un match qui compte triple, voire plus face à Gibraltar où là clairement ils auraient pu faire ça 14. En 5 matchs, ils l'ont fait en un match. Ensuite, voilà, Soufiane, j'aimerais le féliciter. Je crois que, je sais pas si il vient, tu l'as vu encore.
Il n'a pas eu le bon problème, Benji.
À la fin du match, je l'ai appelé, je l'ai félicité. Et franchement, il a vu quelque chose. Et
c'est vrai qu'il avait dit 0-0, il n'a pas dit 2-2.
Un mot sur ça, c'est vrai que lorsqu'on a des affiches comme ça avec forcément un outsider et une équipe leadeuse, entre guillemets, on a tendance à s'étaler un peu sur cette équipe, peser le pour et le contre, donner les meilleurs joueurs, afficher leurs statistiques. Leurs statistiques en grand, et c'est vrai que parfois on oublie de mentionner donc la possibilité que l'équipe qui est l'outsider de la rencontre puisse potentiellement soit donc accrocher le nul, soit gagner la rencontre. Et c'est malheureusement quelque chose que j'ai beaucoup vu dans les médias. Donc heureusement sur Beurre FM, on n'est pas comme ça. On aime bien donc donner des statistiques qui englobent complètement le match. Mais j'ai vu notamment sur les réseaux sociaux, dans l'avant-match et sur d'autres chaînes, justement les animateurs et les chroniqueurs presque que parler de l'équipe de France comme si c'était déjà gagné. Donc voilà.
Tu n'as pas oublié que quand même la Grèce nous a pris aussi un euro. Un euro il y a quelques années, donc
2004.
Donc c'est un peu, on va dire, la bête noire de l'équipe de France. Après il faut pas rester focalisé notamment sur ce match nul de l'équipe de France. Moi j'ai souvent entendu dans les médias notamment qu'on a beaucoup banalisé le fait que l'équipe de France ait gagné 14-0 contre Gibraltar. Gibraltar, je veux dire Saint-Marin par exemple, qui est dernier au classement FIFA, ils s'en prennent pas 14, ils s'en prennent 7 ou 8. Donc voilà, donc il faut pas forcément banaliser justement cette performance-là, parce qu'ils ne sont pas arrêtés de jouer. Généralement dans des matchs faciles comme ça, ça devient, on va dire, un peu ennuyant au bout de 30 minutes, les joueurs arrêtent de jouer. Puis là non, donc c'est là encore, c'est aussi lié à l'état d'esprit qu'a apporté Kylian Mbappé. Et puis sur ce match-là, il ne faut pas oublier non plus que Didier Deschamps a fait 8 changements majeurs, avec une défense qui a été complètement aussi remaniée. Et donc il teste des choses. Il faut savoir que quand même, sur toute l'année 2023, Didier Deschamps a convoqué 31 joueurs différents. Donc il teste, on reviendra après sur l'équipe type. Donc il y a beaucoup de tests, et pour moi, le fait qu'elle reste invaincue, c'est totalement positif.
C'est bien.
Sur l'équipe de France, alors effectivement le bilan de l'année 2023 est bon, l'équipe est qualifiée, etc. Mais à mon avis, si on est Didier Deschamps, si on se met à sa place, je pense qu'il faut être un peu exigeant et voir un petit peu les détails. Par exemple, souvent les auditeurs ou nous tous, on est souvent, par exemple, à beaucoup regarder, je trouve, les profils offensifs. Mais hier, je trouve qu'on prend Koundé, Saliba ou les deux frères Hernandez, moi je trouve qu'ils ont été beaucoup en difficulté malgré tout.
Un des Hernandez, il a été en difficulté.
Oui,
hein.
Et
surtout sur aussi, le deuxième but, parce que le premier, c'est une très belle frappe grecque, mais surtout le deuxième but, ça m'a un peu dérangé. Par exemple, hier, moi, j'aurais préféré voir une équipe de France gagner même 1-0, quitte à faire un match très très moche dans le jeu, mais avoir un peu un clean sheet, plutôt que d'avoir comme ça un 2-2 où on se dit, on sait qu'offensivement, oui, les Bleus ont beaucoup de qualités offensives, mais oui, quand on se projette sur ce futur Euro, il faut éviter peut-être de refaire ce qui s'est passé dans France-Suisse où on a encaissé deux buts dans les derniers quarts d'heure. Il faut éviter ce France-Argentine où à la première demi-heure, tu prends un petit peu d'eau défensivement, t'as un Koundé. C'est un petit peu ça où, je sais pas, par rapport à ces échecs qui me viennent en tête, où je sais pas si les Bleus ont encore progressé de ce côté-là, pour le coup.
Aïe.
Mais je suis d'accord avec toi.
À la suite de Vivien.
Moi, je te rejoins énormément sur la complémentarité qu'on n'a pas vue entre Saliba et Lucas Hernandez. Notamment sur Koundé qui passe à côté de sa rencontre. On peut le dire, il est excellent avec Barcelone depuis le début de saison, mais en tant que central droit, là, pour le coup,
c'est pas son poste.
Il est énormément mis en
difficulté. Mais le problème, c'est que Deschamps va le mettre là, peut-être.
Peut-être que c'est un close qui peut gagner sa place de titulaire face à un Jules Koundé, et malheureusement il peut la perdre face à cause de ce match contre la Grèce, et parce que close, et on le voit même quand il rentre, est beaucoup plus à l'aise sur le côté, il apporte beaucoup plus offensivement, il fait beaucoup plus d'efforts, et pourtant Koundé, depuis le début de saison, il mériterait dans peut-être 99% des autres nations de la planète d'être titulaire à son poste en tant que défenseur central, parce qu'il est excellent avec le FC Barcelone depuis le début de saison. Mais là où je suis pas d'accord, c'est quand tu dis j'aurais préféré qu'on voit une équipe de France gagner 1-0 quitte à ce que ce soit pauvre dans le jeu. En vrai, moi je suis pas d'accord, dans le sens où on avait une équipe de France qui était qualifiée, tête de série
déjà,
sûre à 100%, donc moi j'aime beaucoup le fait que Didier Deschamps fasse du turnover, teste des joueurs, mette des choses en place,
et
que
ces joueurs, j'ai pas dit qu'il fallait garder le même 11, attention,
mais j'ai pas fini mon argumentaire, et que ces joueurs n'hésitent pas aussi à prendre des risques pour essayer de comprendre les limites, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent ne pas faire en équipe de France, qu'ils fassent des erreurs aussi. Pour moi, c'est le moment où tu as un match qui compte en partie, mais d'un côté où tu as la liberté de pouvoir laisser des points de côté, donc tu peux prendre des risques, tu peux comme je disais, essayer des choses, essayer de tenter des choses, comme la frappe de Fofana par exemple. Dans l'idée, la frappe de Fofana, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs au milieu de terrain qui ne l'apprendront jamais, et ça peut montrer une marque de confiance, ça peut marquer beaucoup de choses.
Il tente de loin, Tchouaméni fait partie de ces joueurs de l'équipe de France qui tente de loin. Mais juste avant la pause, tu parlais de Jules Koundé, qui fait partie d'un top 3, oui les amis, le top 3.
Lequel?
Des musclés.
Non, pas exactement. Oui, c'est vraiment ce que je veux dire. Mais Djibril Cissé, qui a donné donc les trois footballeurs qui s'habillaient le mieux pour lui, et donc en fait partie, Jules Koundé et Beckham.
Beckham. Justement, il parle de Beckham. Il y a un super documentaire aussi, sur Netflix qui est notamment à voir sur Beckham, et qui est très très étonnant.
David Beckham, toujours élégant, enfin. On va rester ensemble, chers auditeurs et auditrices, pour revenir concernant. C'est vrai, il y a un coup de tonnerre d'une certaine manière à la France. On n'entend plus parler, on voit plus Yacine, on voit plus Boula. Mais la formation la française disqualifiée du mondial U17. Les Marocains, les Maliens sont toujours bien présents. Voilà. Enfin bref.
C'est officiel encore.
Bref. Justement, vous restez avec nous. On revient rapidement avec cette équipe de France.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h20. On est toujours là en live avec notre consultante Yasmine. Benji est de la partie, sans oublier Vivien, le 01 53 48 3000. C'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. On parlait de cette fameuse équipe de France. On va revenir au débat du jour avec les hommes de Didier Deschamps.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, a-t-il son 11 type, Didier Deschamps? Benji, on revient avec toi.
Je ne pense pas que Didier Deschamps a son 11 titulaire. Après, qu'il a une base de 15-16 joueurs sur lequel il peut vraiment se poser et vraiment construire son 11 en fonction de l'adversité qui est en face, en fonction de la dynamique en club, des blessures ou de la formation qu'il a envie de mettre en place. Mais il y a toujours des questionnements, que ce soit alors peut-être sur le poste de latéral droit, comme on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, entre Koundé et Klos, que ce soit sur le côté des ailes, Coman, Dembélé, Colomouani, Mbappé, quel poste, le rôle de numéro 9 également, qui pour moi reste encore une question qui est totalement ouverte. Est-ce que tu joues avec Colomouani ou est-ce que tu le laisses sur un côté? Est-ce que tu pars avec Olivier Giroud, Marcus Thuram? Est-ce que tu mets Mbappé dans l'axe? Est-ce que tu ramènes quelqu'un d'autre comme un Matisse Tel par exemple, ou un Wai? Tu peux, il y a beaucoup de questions qui se posent au milieu de terrain. J'ai l'impression que ça peut encore bouger, parce que Fofana gagne de plus en plus de points aux yeux de Didier Deschamps, parce qu'à chaque rentrée qu'il a fait, soit pendant la Coupe du Monde ou les matchs où il a commencé, il a toujours été très bon, il a toujours répondu présent.
Après, je pense que Tchouaméni, Rabiot encore une longueur d'avance, peut-être même Kamavinga quand il reviendra. Mais pour moi, voilà, les questions se passent vraiment plus vraiment sur l'attaque et sur la question du latéral droit.
Je rejoins Benji sur le sujet. Est-ce qu'il a son équipe type à la fin 2023? Pour moi, clairement, c'est non. Beaucoup de questionnements. Un questionnement déjà au niveau de la défense. En défense, c'est là où il y a les plus grosses lacunes. Alors, si on peut peut-être se dire que déjà, il y a la paire Upamecano et Konaté. Ensuite, il y aura peut-être une concurrence entre les frères Hernandez. Après, sur ce couloir droit, Koundé, pas Koundé, Pavard, Jonathan Clauss.
Ah, pour moi, Pavard, c'est mort. Hein. Pour moi, Pavard, je pense qu'on peut le laisser de côté.
Je pense aussi, mais bon, après, il fait plutôt une bonne saison du côté de l'Inter de Milan. Ensuite, le milieu de terrain, pour moi, le milieu de terrain, c'est aussi un gros questionnement, parce que tu parlais tout à l'heure de Fofana qui pouvait prendre une place dans ce milieu de terrain. Mais quand tu vois que même un Zaïre Emery a pris, pour sa première sélection, a déjà pris de la place avant même Fofana, dans la tête de Didier Deschamps, tu te dis quand même que Fofana, ça va être assez compliqué.
Après, Tchouaméni n'était pas là aussi, donc ça redouble.
Il y a eu quand même des blessés, voilà, Kamavinga, Tchouaméni, etc. Pour moi, vraiment, au niveau du milieu de terrain, ça va se jouer au niveau des blessures et sur cette deuxième partie de saison. Après, concernant l'attaque, c'est, on va dire, un peu plus clair. Moi, j'ai encore un gros questionnement entre Dembélé, Coman, Dembélé. Les deux, on connaît leur capacité offensive, leur impact aussi offensive, le fait qu'ils arrivent à se créer facilement des occasions.
Ils sont totalement différents pour autant, c'est ça
ils ont exactement les mêmes lacunes, c'est-à-dire qu'ils sont absolument pas du tout précis dans le dernier geste et ils sont pas forcément très efficaces. Je parle notamment surtout de Dembélé qui est même assez décevant avec le Paris Saint-Germain, et on voit que sur les derniers matchs, il n'a pas forcément été très impactant. Donc voilà. Donc du coup, au niveau de l'attaque, pour moi, c'est un peu plus clair, mais il va rester un gros questionnement sur cette défense française et sur ce flanc droit.
Et tu mets pas du tout Colomoyni dans la balance pour les ailiers, toi? Tu le vois plus comme un numéro 9 ou tu le vois
plus? Moi, je le vois plus en concurrence avec Olivier Giroud.
D'accord, moi je
totalement.
Le vois plus en concurrence sur un côté. Tu vois par exemple.
Je le trouve,
je l'ai toujours trouvé meilleur, que ce soit du côté de Francfort ou en équipe de France. À chaque fois qu'il a fait des entrées ou qu'il était titulaire à Francfort, chaque fois où je l'ai trouvé vraiment le meilleur, où il a pu stater, que ce soit en termes de passes décisives ou qu'il a pu être impactant dans le jeu avec des buts ou avec des appels, j'ai toujours trouvé plus tranchant sur un côté, notamment sur le côté droit. Alors qu'étonnamment, contre la Grèce, où il a été plutôt moyen sur l'ensemble de la rencontre, il a joué 99% à gauche. Le moment où il est décisif, il est à droite. Donc c'est vrai que moi je le mettrais dans un flanc d'attaque. Je partirais vraiment plus avec un Colomoyni titulaire en tant qu'ailier droit. Pour le côté gauche, ça pourrait varier. On pourrait très bien être sur un Ousmane Dembélé. Et dans l'axe, moi j'aurais peut-être ce parti pris de tenter un Mbappé dans l'axe. Ou alors.
Ouais, mais il aime pas trop ça.
Est-ce que tu as ça sur une concurrence?
Il aime pas ça. Évidemment, il est capitaine. Il faut aussi savoir se sacrifier pour l'équipe. Il faut aussi savoir aller de l'avant. Il faut savoir aussi tenter des choses. Parce que Olivier Giroud, pour moi, je pense que ce serait une erreur de le laisser toujours en pointe de l'attaque. Pour moi, il faut aller de l'avant, mais je l'ai déjà pas mal expliqué sur cette antenne. Marcus Thuram, je le vois plus comme un super sub qui est capable de rentrer et faire la différence dans un dernier demi-heure. Parce que j'ai toujours un peu ce problème. Je trouve qu'il est excellent pour combiner, pour créer des occasions, que ce soit pour lui ou pour les autres. Mais dans le dernier geste, il y a toujours ce petit truc, tu vois, comment qu'il a toujours eu depuis toute sa carrière, Thuram, dans le dernier geste, dans la finition, quand il peut retrouver dans certains face-à-face. Et pour la défense centrale, je suis d'accord que pour le moment, Konaté ou Upamecano, c'est vraiment installé dans la tête de Deschamps. Cependant, attention pour Konaté, qui a quand même très sujetti à avoir pas mal de blessures, par moments, même pas des blessures très longues, mais souvent des petites contusions musculaires. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Qui tu mets à la place? Il faut trouver un remplaçant. Pour moi, je serais parti plus sur un Saliba, mais le problème de Saliba, c'est qu'il est beaucoup plus à l'aise en tant que défenseur central droit, comme Upamecano, et en équipe de France, ils auraient peut-être un rôle un peu similaire. Donc, est-ce que tu pars sur un Lucas Hernandez qui a quand même été très en difficulté contre la Grèce? Pour moi, le chantier, il se passe plus aussi sur le côté défenseur central gauche. Qui tu mettrais si jamais Konaté n'était pas là? Parce que Saliba ou Upamecano, j'ai l'impression que en fait Upamecano en équipe de France a un peu le rôle que Saliba à Arsenal en équipe de France.
C'est à Todibo éventuellement.
Non mais il y a pire aussi.
Todibo, ouais.
On a parlé du 11 type, on doit parler aussi de Youssouf Fofana quand même. Ah, c'est incroyable. On va donner même la parole à Nasser, hein, qui se fait peut-être une place chez les Bleus, justement. Oui, tu sur là, non, peut-être. Ouais, Nasser, on va. Oui, vas-y.
Fofana qui revient de loin, non. Alors, peut-être pas non plus, mais en tout cas qui a fait une finale où il a été très vivement critiqué. Il a fait plusieurs matchs en équipe de France. où il a subi donc de nombreuses critiques. Il a été la risée sur les réseaux sociaux, je sais très bien, et même dans les endroits que j'ai fréquentés où j'ai regardé les matchs, plus d'une personne avait l'insulte facile envers ce joueur. Bon, je citerai pas ses noms d'oiseaux à l'antenne, évidemment.
Quand même pas.
Mais je trouve qu'il se reprend bien entre guillemets en main. Moi, j'ai pas trouvé forcément qu'il était très mauvais lors du mondial. Au contraire, j'ai trouvé que c'était un joueur plutôt bon. Et là, ce qui démontre je trouve ça plutôt solide.
Il a de la personnalité.
Très solide, ouais. Et surtout, il en impose aussi. Ça va avec ce que tu dis avec la personnalité. Je trouve qu'il en impose sur le terrain et qui presque autour de lui, il y a ce genre de joueurs qui ont un espèce de cercle de 3 mètres autour de lui où ils ont une espèce d'aura où les gens ressentent cette chose-là. Et donc, lorsqu'il prend le ballon, lorsqu'il se déplace, très rapidement, il peut créer de l'espace. Et je trouve que c'est un très bon joueur sur lequel il faut miser dans les prochaines années. Et écoutez, non, que du bon à présager, je l'espère, pour Fofana.
Ouais,
c'est un joueur limite Fofana qui serait, on va dire, en concurrence pour une place dans cette liste avec un Kamavinga par exemple.
Dans la liste carrément. Toi, tu penses qu'il est pas assuré.
Une liste, c'est quoi, 26 joueurs aujourd'hui? Sur 26, pour moi,
prends les 15, 16 de Deschamps.
Ouais, moi, je pense en prendre les deux. Sur 26 joueurs,
c'est assez compliqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu vois que Deschamps, il avait cette possibilité de mettre Fofana en titulaire contre Gibraltar et puis il a préféré mettre Zaïre Emery. Tu te poses quand même des questions, même si effectivement il a fait une bonne entrée derrière, qu'il a été décisif hier contre la Grèce. Est-ce qu'il a vraiment totalement la confiance de Didier Deschamps dans cette liste-là? Moi, j'en doute. Après, il fait une très bonne saison avec Monaco. Ouais. Ça, on peut pas lui enlever. Mais il y a une forte concurrence quand même au milieu de terrain. On a quand même les madrilènes, Tchouaméni, on a Kamavinga, on a Rabiot, Griezmann qui peut être là aussi. Donc, même si c'est un bon joueur, je le vois vraiment encore derrière. Sauf si éventuellement, Zaïre Emery ne soit pas sélectionné pour l'Euro.
C'est à voir justement. Oui, Benji, on est avec en compagnie de Nasser justement au 01 53 48 3000. Bonsoir, Nasser.
Bonsoir à tous.
Comment ça va, Nasser?
Oui, écoutez, ça va tranquillement. Après, ça fait plaisir de parler de Fofana parce que je vous rappelle que c'est un joueur issu de la région parisienne. Il avait évolué à Paris 19e et puis il y a 5 ans, il était encore sur le 93. Il jouait à la Jeanne d'Arc de Drancy. Je le rappelle à tous nos auditrices et nos auditeurs. C'est un joueur très, très, très fort. Et je souhaite qu'il soit carrément titulaire même dans les prochaines rencontres. Un garçon très très intéressant. Enfin, en tout cas, il y a 5 ans, il était encore sur les terrains de la région parisienne et aujourd'hui, les beaux jours d'équipe de France. Et ça fait plaisir.
Il avait été refusé en centre de formation et il faisait des petits boulots à côté. Il y a encore pas si longtemps que ça. Et donc c'est pour ça que ça se ressent même dans son jeu, côté où il a de la personnalité, il a de l'engagement, il a pas peur de prendre des risques. Et tu sens qu'il kiffe son moment. Et en plus de ça, ça aboutit à des choses très bien. Donc moi, je suis totalement d'accord avec Nasser sur ce côté-là. C'est un joueur que j'apprécie.
Benji donne l'espoir à tous les livreurs. Je pense à tous les livreurs du nord de Paris qui jouent au foot le soir grâce à Benji.
Ils faisaient les meilleures pizzas du 93. Hein, Fofana, attention.
Nasser, une réaction.
Ouais, non, en fait, pour revenir sur Fofana, c'est aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, je parle notamment des jeunes, c'est d'y croire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il n'y a même pas à peine 5 ans, il était encore à jouer à la Jeanne d'Arc de Drancy, et puis aujourd'hui, il est titulaire en équipe de France. Donc, ça, c'est un beau message pour les jeunes joueurs qui arrivent en France, qui souhaitent, pourquoi pas, briguer une carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'on peut, même si on n'a pas un parcours d'un centre de formation, on peut encore briguer une place en équipe de France. Et Youssouf Fofana, c'est l'image du football qu'on aime, le football qu'on connaît tous les dimanches matins ou dimanche après-midi quand on va dans les stades. Et c'est pour ça qu'on le regarde attentivement. Et ce soir, je suis vraiment content qu'on parle de lui, de ce garçon ça me fait vraiment plaisir. J'espère le voir, pourquoi pas, en Italie, ce garçon.
Il m'a donné beaucoup d'espoir, là, Nasser. Moi, moi-même, je vais tenter ma place en équipe de France.
Avec Hervé Renard, avec Corinne Jacques, ça aurait été mort, mais avec Renard, c'est plus ouvert.
Il est très sympa, Hervé Renard.
Très sympa, on l'a vu il y a quelques années. Mais pour
réagir avec Nasser.
Parce que c'est vrai qu'on a souvent un petit peu l'image, enfin, son profil un petit peu battant, qui peut vraiment presque manger des milieux, mais hier, j'ai beaucoup aimé ce qu'on appelle son caviar qui aurait dû aboutir tir au but à 33e minute pour Griezmann. Et pour moi, c'est ça que j'aimerais voir un petit peu plus de sa part, ce genre d'ouverture comme ça. Je pense qu'il est capable de faire ça et c'est là où je pense qu'il peut encore passer ce cap. Si, parce qu'il en a de la qualité technique et souvent on a un peu tendance à l'oublier, je trouve. Et voilà, c'est pour ça
C'est vrai qu'hier il a été très bon. Il a souvent trouvé des bonnes intervalles. Il a
notamment
remarquables son jeu de passe. Il a aussi beaucoup d'impact physique dans la récupération. C'est un joueur qui, du coup, il a profité de toutes ses absences pour justement engranger de la confiance. Et ça s'est ressenti aussi sur le terrain. Il aurait mérité aussi que cette passe envers Griezmann se concrétise. Mais voilà, c'était le meilleur français hier sur la pelouse.
Ouais. Est-ce que j'aime beaucoup avec ce type de joueur, pour peut-être traduire ce que disait Nasser tout à l'heure, c'est que c'est un joueur d'instinct. C'est un joueur, quand il a le ballon, il peut te faire une merveille sur un geste, sur un décalage, sur une passe, et c'est absolument merveilleux. Tu sens qu'il a ce parfait mélange entre la connaissance du football et la passion de ce sport, et ça fait des choses qu'on aime voir, que ce soit sur les terrains de Ligue 1 ou sous le maillot de l'équipe de France.
Il me fait penser à Pogba à l'époque où il évolue en équipe de France.
Je me demande s'il a par exemple la première ligue pourrait peut-être lui convenir dans certains clubs. Mmh. Enfin, j'ai l'impression peut-être qu'il faudrait qu'il parte à l'étranger. Pourtant, Monaco a une super équipe, mais à chaque fois, les projets monégasques, ils finissent souvent au pied du podium, et je pense qu'il faudrait.
Tout à fait d'accord avec toi, Bilia. Mmh.
Je le verrais bien en première ligue, parce que généralement, qu'en termes d'exigence, il pourrait encore passer un cap et être confronté comme ça au Big Four, par exemple, tous les week-ends.
Ouais,
je trouve que ce serait intéressant de le voir, moi, je trouve.
Nasser, on en pense quoi, Nasser?
Ouais, mais je suis d'accord avec Vivien concernant l'étranger. Moi, j'allais l'inviter, pourquoi pas de l'autre côté, c'est-à-dire
à Rome, loin, mais Mourinho, je sais pas s'il va l'aimer.
Non, mais ou dans un club de la Serie A italienne déjà pour commencer, et puis après pourquoi pas la première ligue. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a du volume, qui propose des choses très intéressantes. Maintenant, moi, la problématique de cette équipe de France, c'est mon point de vue personnel, encore une fois, c'est surtout défensif, quoi. Moi, je vois, par exemple, Koundé qui est perdu, je vois d'autres joueurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à juste titre, concernant cette charnière centrale qui peut être, des fois, qui est pas terrible, quoi, j'allais dire. Voilà.
Bah c'est pour ça que tout à l'heure je rappelais un petit peu les dernières défaites en compétition, c'est que souvent les Bleus ils marquent toujours 2-3 buts, mais souvent c'était des défaites au pénalty ou t'encaissais beaucoup de buts dans ces matchs un peu cruciaux, que ce soit la Suisse ou l'Argentine.
Puis il reste pas beaucoup de matchs avant cet Euro quand même. On n'a pas encore les confrontations, mais on a des matchs qui vont arriver, deux matchs qui vont arriver au mois de mars et un ou deux autres matchs qui vont arriver aussi au mois de juin, et puis après la compétition va démarrer. Donc il reste plus vraiment beaucoup de possibilités, on va dire, pour Deschamps de trouver vraiment son équipe type.
Envers la défense de l'équipe de France. On parle quand même d'une équipe de France qui n'a pris qu'un but en 7 matchs de préparation pour cet Euro, avec une défense type ou pas Mécano. Dis-moi la serre.
Quand je dis que je voulais pas te couper dans ta lancée, parce que je vois très bien ce que tu veux dire et tu as sûrement raison, parce que c'est vrai qu'il faut pas qu'on soit non plus on n'est pas des zététistes, attention. On a une équipe de France qui est une équipe de France qui normalement devrait rayonner sur la scène continentale. On n'a pas, il y a même pas à s'inquiéter. En fait, je vais vous dire, il y a un réservoir énorme. Il faut le savoir. La plupart. Faire même trois équipes de France, donc je veux dire, je m'inquiète pas. Quand vous voyez l'Allemagne, ça va pas.
Merci,
du tout.
Nasser,
quand
on va
vous
faire.
Voyez en Italie,
Nasser,
désolé.
Désolé, c'est la pause justement qui doit s'imposer pour tous les auditeurs et les auditrices. Et nous, on revient avec Nasser, c'est promis, et toute l'équipe de Time Sport. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour, 20h et 38 minutes pour la dernière partie de cette émission. On parlait avec Nasser de justement Youssouf Fofana et pas que, de ce 11 type de l'équipe de France. A-t-il déjà en tête son équipe type? Là pas peut-être, justement, c'est Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. En tout cas, c'est ce que, on en débat ce soir avec vous les auditeurs, mais aussi toute l'équipe de Time Sport au 01 53 48 3000. Et la dernière partie de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
5-3 au tir au but face au Sénégal. La France l'a donc emporté, n'est pas éliminée de ce fameux, de cette fameuse Coupe du Monde U17. Hein. Voilà, le mea culpa du présentateur en live directement, c'est ça. Benji, spécialement pour toi, je sais que tu les suis de près, tout comme Vivien. Le 0153483000, on est avec Nasser justement. On revient avec toi, Nasser, hein, concernant Youssouf Fofana et pas que cette équipe de France. Ah, Serge, tu es là avec nous? Tu es parti dormir ou tu es avec des petits...
Non, non, pas du tout, en fait.
Dis-nous tout. Ah, ben, c'est bon, Serge. Ah, ben oui, c'est plus en Italie, non, c'est plus cool.
Il aime plus se mettre le pesto, lui, sur lui.
Bon, en fait, c'est pour dire que on n'était pas non plus alarmiste face à cette équipe de France. Comme je disais, il y a quelques retouches à faire. Je pense notamment à cette défense. Moi, je me pose la question par rapport à Koundé. J'aimerais voir d'autres joueurs à la place, voir pourquoi pas Dizazi ou d'autres, les voir un petit peu, avoir quelques minutes, voir un peu ce que ça peut donner. Parce que cette défense, bah, hier, elle a été vraiment pas bonne hier. Elle n'a pas été bonne. Deux buts concédés, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une équipe de France qui, je vous le rappelle, a fait la finale de la Coupe du Monde et a un parcours extraordinaire ces derniers temps, quoi, depuis que Didier Deschamps est à la tête, faut le dire.
Voilà. Nasser, est-ce qu'on peut imaginer finalement aussi des surprises dans cette équipe de France pour cette liste pour l'Euro?
Moi, en fait, la surprise, moi j'ai un garçon, j'ai toujours voulu qu'il soit en équipe de France. J'espère que vous serez tous autour de la table pour que vous soyez d'accord avec moi. Je parle au niveau du milieu de terrain, c'est Teddy Savanier, c'est quelqu'un que j'aurais aimé.
Ah oui,
j'aurais aimé aussi, mais je pense que ça risque d'être un petit peu juste maintenant.
Mais franchement, c'est un garçon qui peut apporter. Alors je sais, hein, vous allez me dire, mais lui, c'est vraiment. Voilà, c'est incroyable quand je vois qu'il s'est permis de refuser le Milan AC juste pour rester à Montpellier. C'est voilà, ce garçon, je suis fan de lui.
Je te rejoins à 1000% sur sa personnalité. Tu sens que c'est un gars en or en qui tu peux avoir une confiance aveugle. Et il y a une période là à Montpellier, que ce soit il y a un an, deux ans ou même trois ans. Enfin, il a fait des saisons absolument exceptionnelles où il aurait mérité. Tu vois, au moins d'avoir cette convocation, d'avoir cette sélection pour l'ensemble de son œuvre, parce que honnêtement, il avait des performances qui étaient de très haut niveau dans le cœur du jeu montpelliérain. Mais c'est vrai que maintenant, actuellement, quand tu vois ce milieu de terrain ou même ses offensives, si jamais tu veux essayer de le remonter pour l'amener, ça reste quand même très compliqué parce qu'on est très très fourni sur ces postes-là. Et j'ai l'impression que pour le TJ de maintenant, c'est un petit peu juste. Quand même pour aller en équipe de France, même si je suis d'accord que sa sélection il aurait pu la mériter à un moment moment ou un autre. Et juste un tout petit mot pour revenir sur Fofana et recentrer le débat sur Fofana. Il y avait quelque chose que je voulais dire tout à l'heure et je voulais savoir si vous étiez d'accord avec moi ou pas. Moi j'ai cette sensation quand je le regarde jouer à Monaco ou en équipe de France, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un canalisateur. Le gars, quand il a le ballon, t'as l'impression qu'il y a toute une pression qui redescend. Mais je sais pas comment expliquer cette sensation là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est à la fois serein. Et à la fois, à tout moment, il peut te ramener cette dynamique par une passe, par un geste, par un éclair de génie, qui est absolument fantastique. Alors là, quand on le dit comme ça, on a l'impression qu'on parle du meilleur joueur du monde. On n'est pas en train de survendre Fofana, mais c'est vrai qu'il a cette capacité que quand il prend le ballon, tu sens que les autres autour sont confiants, que lui est confiant, et que, je sais pas comment expliquer, mais même tout le stade se dit, ok, on sait pas ce qu'il va faire, mais dans tous les cas, ça va bien se passer. Tu vois, que ce soit une passe en retrait, même si c'est une passe en retrait, que ce soit une passe vers l'avant, que ce soit un geste, je trouve qu'il a une maturité dans son jeu qui est absolument fantastique, et qui, en plus de ça, il y a de la personnalité. Donc quand tu mélanges ce côté, vraiment, où il est capable de te poser le jeu, d'avoir le geste juste au moment sans en faire trop, et cette capacité à prendre des risques, comme cette frappe qui nous décoche à un moment où honnêtement beaucoup de joueurs qui ont beaucoup à perdre ou à gagner ne l'auraient pas pris, sachant que en première mi-temps elle part dans les nuages. Je trouve que c'est un joueur sur qui tu peux t'appuyer en équipe de France, alors peut-être pas sur un rôle de titulaire, mais que tu peux faire rentrer en tant que troisième ou quatrième milieu de terrain. Moi je trouve ça absolument, absolument fantastique d'avoir un joueur comme ça qui ne va pas trop en demander, mais quand tu fais appel à lui, il fait le boulot.
Ouais. Eh bien.
Non, oui, moi sur Fofana, moi je vais être comme Benji, je vais en dire que du bien, donc il va pas avoir beaucoup de contradictions. Enfin,
alors,
je repense même à la finale de la Coupe du Monde, j'aurais même aimé le voir titulaire, même s'il avait été un peu mitigé contre le Maroc. Mais je pense que par exemple contre l'Argentine, où les Argentins étaient très vicieux dans les 30 premières minutes, je pense qu'il aurait eu cette personnalité justement que décrit Benji par exemple. Donc non, sur Fofana, moi je sais même pas quoi ajouter de plus, parce que pareil, en fait, le problème c'est que que sur le plateau, on est 3-4 ouais. à beaucoup l'apprécier. Donc, ouais, c'est un peu compliqué pour les auditeurs de.
Il aurait fallu Yacine alors.
Non, mais moi, comme j'ai dit, moi, je pense que pour passer.
Oh, mais après, on peut tous. Ça peut arriver qu'on soit tous d'accord quand même.
C'est vrai que pour passer un cap, c'est vrai que j'aimerais beaucoup le voir à l'étranger dans un contexte. En fait, j'aimerais beaucoup le voir dans un contexte où il y aurait encore plus de pression en club, en fait. C'est peut-être ça qui serait. Par exemple, même au PSG, j'aurais aimé le voir, moi, il y a un ou deux ans.
Mais là, l'année prochaine, il est libre de tout contrat, si je dis pas de bêtises. Et
mais je dirais peut-être plus à l'étranger, parce que je sais pas, le PSG, c'est. Je sais pas, je trouve ça compliqué.
On sait que le Paris Saint-Germain s'est positionné dessus pour le recruter cet été de manière libre. Mais c'est vrai que moi, je. De voir un joueur comme ça.
Il a la personnalité pour réussir, je pense, mais j'aimerais le voir dans un contexte.
Et puis juste un tout petit mot pour rebondir, parce que je repense à ce que disait Nasser quand il évoquait Disasi. Tu vois, moi Disasi, j'ai plus de mal. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour le coup, tu sais, si on parlait des joueurs qui pouvaient sortir d'une liste de Deschamps, je pense que Disasi peut faire partie de ce type de joueur qui peut sortir d'une liste de Deschamps, parce que dans la tête de Deschamps, il le voit pas faire jouer en tant que central. Et en tant que latéral non plus, en fait, parce que dans sa tête, ça va faire Klaus Koundé maintenant à droite. Je pense que ça bougera pas. Et en tant que central droit, on a clairement pléthore de monde. Ouais, donc que ce soit Upamecano, que ce soit Saliba, pour moi, et puis même Koundé, si jamais tu veux le redécaler en central, pour moi c'est vraiment bouché. Et j'ai l'impression que pour Disasi, ça risque d'être un petit peu juste. Alors c'est évidemment un joueur de talent, mais pour le coup, j'ai l'impression que il y a beaucoup de joueurs de talent qui vont devoir rester à la maison.
C'est le lot d'une grosse équipe de France.
Hein. Ouais. Totalement. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, Didier Deschamps a utilisé 31 joueurs différents cette année. Notamment, il y en a 10 d'entre eux qui viennent de Ligue 1. Donc, c'est pour vous dire le vivier qu'a Didier Deschamps et cette équipe de France pour cette année et pour les années à venir. Il y a quand même eu des premières sélections. On parlait justement tout à l'heure de Todibo, Samba, de Malo Gusto aussi. De Loukeba également. Donc pour moi, il n'y aura pas forcément de grosses surprises, même voire pas du tout de surprises pour cette liste pour l'Euro 2024. Je pense qu'il va vraiment s'appuyer sur les joueurs qu'il a déjà testés jusqu'à présent. Et puis pour revenir sur Fofana, même si on est tous d'accord pour dire que c'était un excellent joueur qui a beaucoup apporté notamment hier, moi encore une fois je trouve que ça va être très très juste et que ça va être ça va se jouer notamment avec Zahir Emery.
Moi j'y crois à la surprise de Dédé. La petite surprise, le joueur qu'on attend pas.
Il
y en aura une, je sais pas laquelle. J'espère que ce sera Mathis Tell. Allez, je vous dis.
Merci Benji, merci Nasser d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM.
Un grand merci.
Et une bonne soirée beaucoup, Nasser. Oui, vous restez avec nous avant d'accueillir Vanessa 21h. Allez, c'est parti. On aborde cette fameuse chronique avec Aurélien Duarte qui est avec nous, comme tous les mercredis soirs sur l'antenne de Beurre FM.
Bonsoir les âmes, bonsoir Bilal, bonsoir les chroniqueurs, bonsoir aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Aurélien, enchanté de te présenter ce soir. L'énervement est-il source de succès ? La colère met en mouvement. Oui. Et à partir de cela, qu'est-ce que l'on a de beau à offrir ? La colère est une de nos quatre émotions. Elle est naturelle et mal aimée. Car une fois exprimée, tu te vois immédiatement affublé du costume du méchant. Il est parfois salvateur d'exprimer une colère légitime. Quand tes besoins ne sont pas nourris, quand tu n'arrives pas à faire respecter tes valeurs, quand toutes les formes de communication douce ont déjà été utilisées. L'art de la guerre. Celui qui a déclaré la guerre n'est pas celui qui a tiré le premier. C'est celui qui a mis l'autre dans une position telle qu'il ne pouvait rien faire d'autre que tirer. Tremblement de terre, raz-de-marée, glissement de terrain ou éruption volcanique. La terre-mère n'exprime-t-elle pas par ses moyens ses propres colères ? Typhons, cyclones, tempêtes, ouragans et autres catastrophes naturelles nous proviennent aussi du ciel. Pluie de météorites, orages magnétiques. Même le cosmos n'est pas toujours tendre. Nous acceptons aisément que les éléments soient déchaînés et nous sommes bien moins tolérants quand ces tempêtes viennent du plus profond de notre être ou d'un autre frère en humanité. Ne crie pas, calme-toi. Chut. Vociféré par des adultes à des années-lumière du calme qu'ils nous imposaient. Ne sois pas méchante, ne fais pas de mal aux autres. Si tu es en colère, tu seras puni et ou privé de ce qu'il y a de plus important pour toi. Dans de telles conditions, comment ne pas céder ? Nous avons ravalé notre langue et intégré que la colère n'est pas socialement acceptable. À l'image d'une cocotte minute dont la soupape a été obstruée, tu finiras par exploser. Que tu le veuilles ou non, elle s'exprime. Agitation, négativité, maladie, amertume, anxiété, cynisme, ironie, humour noir, lol, saut d'humeur, plainte et accusation. Utilisation excessive du tu. Tu m'énerves, tu m'écoutes pas, tu ne m'aimes pas. Tu. Ce tu qui tue. Mon Dieu, pardonne-leur. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et ils ne faisaient que reproduire ce qu'ils ont reçu. De la colère. À présent, toi tu sais. Une émotion, étymologiquement, est un mouvement d'énergie vers l'extérieur. Un adulte digne de cette posture est en paix avec son seum, accueillera avec détachement les colères des autres. Si une personne exprime un sentiment désagréable, c'est que cette personne a un besoin d'écoute, de reconnaissance, d'être acceptée, d'être comprise ou d'avoir sa place. Une fois la colère identifiée, clarifiée et exprimée, l'acidité du cortisol qui ronge ton corps, favorise la douleur et fausse ton discernement, diminue. Et la vie confortable reprend son cours, comme réapparaît le ciel bleu paisible après le terrifiant orage. Ressentir l'énervement est humain. Entretenir la colère est un choix. C'est comme t'inoculer toi-même du poison et attendre que les autres meurent. Respire profondément. Reconnais cette colère. Identifie le besoin à nourrir. Rappelle à l'autre comme tu l'aimes, même si c'est difficile, et à quel point tu vois en lui une bonne personne. Exprime spontanément et le plus tôt possible ce désagrément. Tu t'éviteras ainsi l'agressivité qui rend notre message difficilement audible et qui ferme les portes du cœur. Tu récupères ainsi cette puissante énergie en mettant ton orgueil de côté, en cessant de te dévaloriser. Tout comme tu peux recycler les déchets naturels pour en faire du compost, tout comme je recycle mes colères face à ce monde plein d'injustices afin de les transmuter en pure lumière et de te faire ressentir un peu plus d'amour pour tes colères. Le prophète a dit « L'homme fort n'est pas celui qui est fort en lutte, mais c'est celui qui se maîtrise sous l'emprise de la colère. »
Voilà. Se maîtriser. C'est ça, bravo. Bravo. Merci. Vraiment, merci. Aurélien. Vraiment.
Alors,
bravo.
Aurélien, c'est difficile de ne pas s'énerver quand on supporte l'Olympique de Marseille, par exemple.
Ça va être
compliqué.
Oui. Ah, il va dire quoi aussi
Je ne dis plus rien sur Lyon. Je vais comme Aurélien a dit, voilà, je m'éloigne de cette colère, je souffle. Comment je fais? Je ne regarde plus les matchs. Non, je sais pas.
Allez, merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM avec justement Yasmine, avec Vivien pour m'accompagner, sans oublier Aurélien qu'on pourra retrouver mercredi prochain, et aussi Benji. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre avec justement Vanessa qui arrive, 21h-23h. Bye bye, très belle soirée à toutes et à tous.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.